Ah, le savoir, les lumières de la philosophie spéculative, la connaissance purement désintéressée des essences immuables. Mais comment d'ailleurs y être intéressé, au fait, hein, si cela relève du désintérêt? Mais oui, passons là, passons sur ces contradictions, momentanément en tout cas. Parce que le savoir, moi, ça me botte. Et comme j'ai loupé l'école, comme je me suis loupé à l'école, enfin bref, comme j'ai eu mes hauts et mes bas, mes trics et mes tracs, et comme l'institution m'a mis bas, ou bien comme je m'en suis mis au banc, eh ben mon Dieu, j'ai dû poursuivre le bonheur d'une part, et puis la connaissance d'autre part, par mes propres moyens. Alors pour ce qui est du bonheur, il court toujours le saligo, hein, il gambade quand je lui cavale derrière dans la savane. En ce qui concerne la connaissance, en revanche, je peux dire que je lui ai mis la main dessus. Enfin, ne soyons peut-être pas si prétentieux, ma prise, il est vrai, est précaire, elle est transitoire, elle est évolutive. Mon indomptable maîtresse se laisse parfois, à force de ruse, approcher, parfois même apprivoiser. Mais elle reste sauvage et rebelle dans son fond, et fidèle à sa nature profonde, elle m'échappe lorsqu'elle recouvre son indépendance. Je suis presque comme Socrate, voyez-vous, je sais que je ne sais rien. Encore que cette affirmation de modestie ostentatoire postule un savoir d'une nature plus profonde et d'une essence plus rare. « Je suis plus humble que toi », disait un moine à son frère au fond d'un monastère. Eh oui, pour rien comme ça, juste pour le faire chier. En tout état de cause, ce savoir, cette connaissance qui ne m'ont pas été délivrées par l'école, eh ben, j'ai dû les chercher par mes propres moyens, en autodidacte. Et à une certaine époque, je suis devenu l'hôte des bibliothèques publiques et des salons où l'on cause. Et il m'est d'abord apparu comme une priorité, hein, dans le cadre de mon projet et dans le cadre de ces salons et de ces joutes argumentatives à fleurer mouchetées, hein, ces joutes arbitrées par des dames de bon goût, où il faut faire donc bonne figure. Il m'est donc apparu comme une priorité de combler mes manques culturels. Et quoi de mieux à cet égard que ces livres de mots et ces livres de choses que sont dictionnaires et encyclopédies? Et quoi de mieux également pour un esprit comme le mien, épris non seulement de connaissances, mais également de la connaissance de ce qui rend les connaissances possibles, que de remonter à la source de ces ouvrages, l'ancêtre des encyclopédies. J'ai nommé l'encyclopédie, avec un grand E, hein, du moins pour ce qui concerne la France, l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, eh oui, celle du XVIIIe siècle. Quoi de plus noble et quoi de plus généreux que cette encyclopédie ? Mettre ainsi le savoir de manière désintéressée à la disposition de tout un chacun. Le savoir sans intermédiaire. L'étudiant débarrassé de ses maîtres, à l'autorité douteuse, hein, et souvent usurpée. L'autodidacte libre d'explorer toutes les dimensions des choses de l'esprit, dans l'ordre de sa convenance, au rythme qui lui sied, selon le procès de ses nécessités propres. Ah oui! Il faut d'abord, pour ce projet un peu titanesque de l'encyclopédie, cartographier tout ce savoir, le savoir universel, en dresser le plan en quelque sorte. Bah oui, parce que dans sa vastitude et dans son apparente absence de limites, il s'étend devant nous comme une mer infranchissable, qui, si elle appelle à rêver et suscite des désirs d'aventure, se montre en fait bien cruelle envers ceux qui se lancent à son assaut sur des coquilles de noix. Alors le XVIIIe siècle était très versé dans ce problème, la cartographie, hein, la représentation sous forme visuellement intelligible de toutes les dimensions de la connaissance et des activités humaines. Les sciences, les arts, les métiers, les aptitudes, dans leur relation avec les facultés de l'esprit, entendement, raison, mémoire, imagination. On peut faire un espèce de tableau à double entrée ou à entrée multiple et on peut décomposer, on peut voir un petit peu les croisements, tout ce que ça donne et établir des catégories que l'on essaye de fixer. En tout cas, c'est ce qu'ils font, hein, ces philosophes du XVIIIe siècle. Et tout ça donne des combinaisons assez chatoyantes qui sonnent à nos oreilles d'aujourd'hui comme une espèce de musique un petit peu surannée et un petit peu vieillotte. Je peux vous donner quelques exemples hein, de ces catégories du savoir. Histoire naturelle, histoire civile, histoire céleste, tératologie, c'est-à-dire la science des monstres, science de l'être, science de l'existence, science de la possibilité, science de Dieu, science de l'homme et science de la nature, pneumatologie, hein, c'est-à-dire science de l'âme, mais aussi les arts, art de penser, art de retenir, ils ont oublié l'art d'oublier, mais on aurait pu y penser aussi, art de communiquer, grammaire, rhétorique, morale générale, morale particulière, métaphysique des corps, science de l'étendue, science de l'impénétrabilité, mathématiques, physique particulière, poésie sacrée, poésie profane. Bon, j'en passe, et des meilleurs, des vertes et des pas mûres. Hein ? Beau projet, effectivement, magnifique projet. Tout à fait similaire, d'ailleurs, dans son esprit, à son héritier moderne, l'encyclopédie online Wikipédia, tout en arborescence et en ramification, en renvoi d'hypertexte. Même mère, dans un cas comme dans l'autre, que l'on essaye de dompter, d'assagir, d'englober du regard en prenant de l'altitude, même défi, et peut-être même aussi, quelques siècles plus tard, même dérision, hein, lorsqu'on jettera un regard amusé et un peu attendri sur l'entreprise. Sauf que la mise en ordre du savoir est en même temps une mise en ordre du monde. Il n'y a pas de connaissance pure et désintéressée, ça n'a jamais existé. Toute connaissance est une saisie du monde, un acte sur le monde, dans le monde. Toute connaissance est donc intéressée à la constitution de l'objet qu'elle se propose de saisir. Elle est intéressée au geste de la saisie qu'elle dirige vers l'objet en cours de constitution. La mise en ordre du monde est également inséparable de notions, hein, par exemple la notion de pouvoir, d'autorité, de légitimité, et par là, tout à fait solidaire de l'ordre qui règne dans la société. Pour le cas qui nous intéresse, l'encyclopédie hein, de Diderot et d'Alembert, et bien on peut même facilement comprendre que l'ordre social est en train, à l'époque, de changer. Il n'y a que quelques 20 ou 30 ans de ce projet hein, de l'encyclopédie à la révolution bourgeoise de 89. Et les deux choses sont bien sûr très très intimement liées. L'encyclopédie prépare les esprits au renversement global de l'ordre des choses, de l'ordre des idées, du pouvoir, de la souveraineté, de l'ordre de la religion. Le problème avec l'encyclopédie, c'est que plus on met le nez dedans, plus elle laisse voir sa nature profonde. On cherchait un savoir et on se retrouve à absorber les opinions de ses rédacteurs. Passe encore si ces rédacteurs avaient eu l'honnêteté de signaler à l'aimable lecteur quand il est question de savoir et quand il est question d'opinion. Mais ils ne se sont pas donné cette peine. En informatique, on appelle ça un cheval de Troie. On cherche à importer quelque chose dont la nature nous a été expliquée clairement et on se retrouve à absorber avec le paquet surprise qu'on n'avait jamais demandé, qui est très possiblement malicieux et qui en tout cas ne répond ni de près ni de loin à nos besoins personnels et ne sert que des objectifs inconnus, non formulés, d'entités que nous ne connaissons pas, mais qui s'acquièrent ainsi furtivement sur nous, contrôle et savoir. Et ainsi en est-il de ces pirates de la culture que sont les encyclopédistes. Diderot, d'Alembert ou Wikimachin entretiennent tous pareillement une savante ambiguïté entre savoir et opinion, pour nous la glisser incognito et sans douleur, leur vision du monde. Or, désolé les gars, si je voulais jouer au con et que je vous disais que moi aussi je suis pétri de l'esprit des Lumières, que moi aussi j'adore les débats, les échanges, l'enrichissement mutuel que provoque une discussion bien réglée, pleine de clarté, en pleine lumière, eh bien je me verrais alors en position de pouvoir vous reprocher votre obscure cuisine, votre mode opératoire à couvert, et je pourrais même aller jusqu'à vous accuser d'être malhonnête. Très certainement en connaissance de cause, car je ne vois pas que des gens influents et intelligents, comme vous l'êtes, fassent ce qu'ils font sans le savoir. Que penseriez-vous si Oscar Galapagos vous foutait du bisphénol A dans le miel qu'il vante comme une panacée ? Hein ? Vous diriez quoi ? Vous en donneriez à vos enfants ? Vous confieriez vos enfants à des gens qui achètent le miel d'Oscar Galapagos ? Mais enfin ! Eh non, mais rassurez-vous, mes chers amis, mes ruches travaillent sur de vastes étendues et mes abeilles ne font leur miel que de ce qui relève d'une certaine culture.